יאללה, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de septembre et le Kaf E. On parlera donc de la création du monde, puisque aujourd'hui nous sommes le jour anniversaire de la création du monde. Be'ezrat Hashem Yitbarach Vitale Shemo La'ad. Donc le Kaf E du mois de Elul. On se rapproche vraiment très. Hein? Et c'est là, Iloula, effectivement, du Chafetz Chaim, tu as raison de le rappeler. Alors, comme j'ai beaucoup de cours qui ont été pris pour vendredi, j'en ai, je crois, 5, on va commencer dès maintenant, le temps que ce soit mis ce soir sur les réseaux sociaux, ça paraîtra, Bezrat Hashem, cours acheté par la famille Atia et Kara pour les 11 mois de leur papa, Moshe Ben Myriam, Inematov Manaim, que les gens puissent déjà regarder maintenant pour l'élévation de son âme, et ainsi que la réussite spirituelle et matérielle, une bonne Parnassa Tova, une santé pour toute la famille Atia, ainsi que pour Rudy Moshe Atia Yakar, un bon zivoug, une réussite pour Ilana et Carla, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem. Vishtabach, Vitale, Vitkadesh, Emo, Laad. On pensera à Refoua Shlema de Moratimi, Vivian Batester, Saratal, Batifrat Myriam et Irben Rivka. Fitoussi, Yanaï Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Haya Rouchama, Esther Batrivka, Baruch, Ben Soufan Meir, Ben Soufan Shoshana, Bat Mesaouda, Emir, Yonatan, Meir, Mordechai, Ben Rachel, j'espère qu'il va mieux. Nissim Ben Simha Sabah, Nathan Yosef Ben Yehudit. Et on priera aussi pour une situation qui n'est pas simple. Pour. Attendez juste un instant que je retrouve. Bernard Mimoun. Bezrat Hashem Toda Rabba. Bernard Mimoun Ben Jan Chana. Oufren Hashem Atov Esther Bat Clara. J'espère que le Rav. David Hanania Pinto va beaucoup mieux, Bezrat Hashem Ben Mazal. Hashem Berechoto Bechol Asher Lebechen Hashem Atov. Rav David Menashe, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Les Elef Alpha Avdalim, le Mishmad, Kol Mete Israël, Ubichlalam, Georges Eliban Simcha Ali, Julo, Yom Tov Ben Esmin Adam, Gérard Goli, Vechen, toute notre Rishima, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Vechen Alzad Erdadam, Saouda Bat Esther Sasson Ben Levi, Esther Levi, Ambran Ben Yaakov Azoulay, Vechen Martin, Ozin Saada. Une grande atzacha pour tout notre mime. On commence tout de suite notre shiur Baruch Haba, Monsieur Lévy, que nous est de retour avec une chemise hawaïenne ce matin. Tu viens d'où, de quelles îles?
La Réunion.
La Réunion. Ils sont divisés là-bas, la Réunion?
Bon.
Non, Tov, on va poser une question essentielle aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la création du monde. Alors, la réponse à cette question est très vaste. Parce que Bémet, comme d'ailleurs l'enseigne Spinoza et d'autres philosophes, si Dieu est complet, alors pourquoi il a créé le monde? C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, c'est qu'on a un manque. Et donc, apparemment, Dieu, dans sa complétude absolue, a eu un manque. Et c'est quoi son manque? Eh bien, c'est que comme il est craint de partout, on ne peut pas éviter la puissance et la crainte du ciel, il a fallu créer quelque chose qui soit, je dirais, très marginal dans la création. C'est le droit de craindre ou pas Dieu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la Torah, quand elle s'adresse au peuple d'Israël, nous dit « Uma Hashem Elokecha Shoel Mimach ». Et donc, quelle est la seule chose que Dieu te demande réellement? Qu'est-ce qu'il te demande, Hashem? Réponse de le craindre. Les ira, oto ou l'ahava, donc de l'aimer, de le craindre, de l'aimer, ainsi de suite. Alors, toute une liste comme ça, elle doit kabod, adhérer à lui, faire sa Torah et ses mitzvot. En d'autres termes, ce que Dieu a créé dans la création du monde, c'est le libre arbitre. Et bizarrement, on se rend compte que le libre arbitre n'a pas été donné qu'à l'homme, mais aussi à la terre, puisque la terre désobéira le troisième jour de la création à Dieu, ne donnant pas des arbres aux fruits, mais des arbres qui donnent des fruits. Donc, il y avait effectivement non pas un manque, mais un besoin. Il y a une grande différence entre le manque. Dieu ne manque de rien, il est Shalem, il a créé la complétude. Donc, il est au-dessus de toute pensée divine. Mais la reine, ce rendez-vous-là, avec le pourquoi de la création du monde, c'est le libre arbitre. Est-ce que tu serais capable de m'aimer si je te donnais le droit de ne pas m'aimer? Waouh. Est-ce que tu serais capable de m'écouter? Moi qui suis l'absolu, et toi qui est absolument absolument rien, hein, comme je viens d'apprendre, je vous ai dit hier, malheureusement, en allant à la Rabbanout, il y a toujours des bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Enfin, je demande où est la secrétaire, avec qui je travaille à la Rabbanout depuis 13 ans. Et on me dit, quoi, vous n'êtes pas au courant? Là, je suis là, parce que j'ai vu quelqu'un d'autre à sa place. On me dit, mais elle est partie du jour au lendemain, caillou de sang, jamais malade, aucun problème. Caillou de sang, poc, Al-Khal Betolama, 54 ans, et sans des enfants, un mari. Un peu de problème, juste Al-Khal Betolama. Mais la reine, On a le droit de faire. On a le droit de ne pas faire. Tu veux pas faire Shabbat? Fais pas. T'as pas envie de faire Yom Tov? Fais pas. Tu veux pas mettre tes tefillines? Mets pas. Tu veux manger du porc? Mange. Qui t'empêche? Qui t'empêche? Personne. T'as jamais une claque qui est sortie du ciel qui t'a dit, ah, t'es quoi, j'ai traqué ta pâque. Nadine. Jamais. T'as pas envie. Tu vois une non-juive, t'as envie d'aller jouer avec elle? Va jouer avec elle. T'as envie de voir des films toute la journée? Regarde des films toute la journée. Tu veux faire Bitoul Torah toute ta vie? Fais Bitoul Torah toute ta vie. Personne viendra t'en empêcher. Seulement. Il y a un choix. Et ce choix, on a rendez-vous avec lui pour le Din Vecheshbon. Pourquoi je vous parlais donc de cette femme qui est décédée? Parce que tous les Rosh Hashanah, nous avons rendez-vous avec Hachem. Et sur Rosh Hashanah tombe le, quelle date en hébreu? Aleph Betishri. Tout le monde pose la fameuse question, où est le Aleph de la création du monde? Car vous savez que la lettre qui commence la Torah est la lettre Bet. D'accord? Et donc, on a envie de poser la question, où est le Aleph? Eh bien, le Aleph, il est tout simplement placé, comme je vous le montrais ici, dans le mot Bereshit. Seulement, il sort du Bereshit. Et si, effectivement, j'enlève le Aleph du Bereshit, ça me fait Aleph Betishri. Tout simplement. Aleph Betishri. C'est les lettres du mot Bereshit. C'est-à-dire que le Aleph, en réalité, c'est pas qu'il n'existe pas dans la création du monde. C'est qu'il te donne rendez-vous du pourquoi de la création du monde. Donc, si... Maintenant, toi, tu n'es pas présent pour l'Aïrat Shamaïm. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu commenceras par la lettre Bet. Bet, dit le Zohar Kadosh dans le Tikkun HaZohar. Pourquoi la lettre Bet? Parce que le monde a été créé pour la bénédiction. Pour que les Rishaïm et les Benonim, ainsi que les Tzadikim, de façon évidente, soient bénis par Dieu. Pourquoi la lettre Bet? Beracha. Tandis que la lettre Aleph, c'est la lettre du mot Arour, qui veut dire maudire. Donc, la Torah pouvait pas commencer par le Aleph. Mais dans quel cas on est maudit? Comme on l'a vu dans la paracha de Kitavo, dans le cas on fait pas la volonté d'Hachem. Arour, Aish, maudit est cet homme qui ne fera pas ce qui a marqué dans cette Torah-là. Donc, quelque part, il y a une conséquence à la désobéissance si elle ne vient pas par la recherche de l'homme. C'est-à-dire s'il n'a pas de Irat Hashem. Donc, le Aleph de Bereshit que nous cherchons tous, en réalité, nous donne rendez-vous quand? Le Aleph Betishri. La création de l'homme. Le pourquoi de la création de la terre. Mais la fin, Bevadaï, que le but de la création, c'est d'être capable de non pas venir à l'image de Pinocchio, une poupée de bois avec des fils venir vers Geppetto parce que le papa le tient par des fils, c'est-à-dire lui retirer son libre arbitre, mais une fois qu'il est devenu garçon de chair et d'os, qu'il vienne de lui-même de façon assez magique, qu'il Dieu insouffla un souffle de vie donc par les narines de l'homme et il devint vivant, il devint un homme. Quelle différence y a-t-il entre un homme et les anges par exemple? La notion du libre arbitre. Quelle différence y a-t-il entre les hommes? La notion du libre-arbitre. Comme on dit souvent d'ailleurs, c'est pas interdit de griller un feu rouge si tu ne t'es pas rattrapé. Hein. Ce qui est interdit quand tu fais une bêtise au niveau du code de la route, c'est de te faire rattraper. Tu roules super vite, tu arrives chez toi, tu es tranquille. Mais si tu t'es fait flasher, tu es foutu. Résultat des courses, eh bien, avec Hachem, on est toujours filmé. Donc on ne peut pas y échapper. Après, nous avons rendez-vous avec Aleph B. Tishri pour rencontrer Hachem. Et ce système de la création du monde demande quand même beaucoup d'explications. C'est ce que je me propose de faire en intercorps avec vous maintenant. Premier point, pourquoi tellement de galaxies? Pourquoi tellement de planètes? Alors d'abord, il faut savoir une chose. Dans la Gemara de Shabbat 156, entre autres, il est marqué là-bas que quand même il y a une grande différence entre les planètes du système solaire et les planètes qui sont au-delà du système solaire. Il y a une grande différence entre notre galaxie et les autres galaxies. Selon le Rav Elimouk, qui rapporte d'ailleurs dans Kol HaTorah, il ramène plusieurs commentateurs qui disent qu'en réalité, les autres galaxies nous sont restées comme étant les mises en garde du Créateur du monde. Ça veut dire, à ce qui paraît, moi j'y étais pas, donc je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que nos sages l'expliquent, que les autres galaxies sont des mondes créés par Dieu dans la notion du libre-arbitre qui ont désobéi à Dieu, et voilà ce qu'il en reste. Effectivement, là, l'espace fait peur. On est à moins 225 degrés, dans une nuit absolue et dans un monde d'une grande crainte. Je ne sais pas si vous imaginez, imaginez-vous comme ça, dans un cosmonaute dans l'espace. C'est l'infiniment géant dans les définis de la peur. On ne peut pas imaginer de quoi on parle. Déjà, quand on est sur Terre, dans une pièce toute noire, on entend des bruits bizarres, on voit des choses qui... on tremble. Mais imaginez dans l'espace. Le Yehouman... Rien que quand t'arrives, il y a un mec qui a fait un saut de la stratosphère, c'est le plus haut saut du monde, rien que de regarder là où il est, quand il regarde en bas, t'as une fajra, tu vois. Alors imaginez un petit peu. Le Rabbi Ayan. Donc il y en a qui disent que les autres galaxies, en réalité, ne sont que l'expression de mondes pré-créés. Manienne, ok, super. Et donc, dans ce cas-là, quel rôle joueraient les Sheva Kochvei Lechet, selon l'Agmara? Eh bien, Rashi nous le dit. Rashi, dans la création du monde, nous dit, quatrième jour, qu'elles sont là pour influencer sur les Mazalot. Donc oui, les Mazal existent, c'est ce que dit Rashi, hein, pas David Huitou. Rashi, sur place, regardez sur place Rashi, quatrième jour, il dit oui. Parce que Dieu va placer les 12 Mazalot. Et ce qui fait que la Gemara, et non pas une fois de plus David Huitou, la Gemara, dans le Shabbat, à la fin, 155 et 156, va nous dire celui qui est né sous l'égide de Saturne. Saturne, c'est quel jour? Shabbat, Shabtai. Celui qui est né selon Jupiter, la plus grosse planète du système solaire d'ailleurs. Et celui qui est né selon Vénus, le vendredi. Donc Jupiter, c'est jeudi. Mercure, mercredi. Mars, mardi. Lune, lundi. Sunday, le jour du soleil, dimanche. Mais Chanel Zahaderer. Hein? L'horoscope, c'est des ch'touillottes.
Oui, mais ils se sont basés sur ça.
Toutes les sciences du monde sont basées sur la Torah. La première science qui a été créée dans le monde, c'est la Torah. Et de la Torah, il y a eu plein de petits-enfants et des dérivés. Après, il y a eu des débiles pour les changer, les rendre comme eux ont voulu les comprendre, de telle façon à ce que ça serve leurs intérêts et leur yetzer hara. Tu vois? Par exemple, la Avodah Zara, c'est de créer un Dieu qui te donne bonne conscience. Au nom du Dieu que tu as créé, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu vois? Tov lo meshaneh. Les Eperushadavar, pour lesquels, Behemet, par contre, le système dans lequel nous vivons, crée une influence. Par exemple, Vénus est une planète de charme et de colère. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Si c'est une planète de charme et de colère, ben, il y a la faute originelle. Le vendredi. Et de colère. Vous avez compris ce qui s'est passé. C'est pour ça que le vendredi, il faut toujours être calme à la maison. Cool. Cool. Qu'est-ce que dit la Gemara? Celui qui est né à vendredi poursuivra toute sa vie les mitzvot. Pourquoi? Eh bien, comme on sait que le vendredi est un moment qui est difficile à gérer, Dieu nous a donné plein de mitzvot. Sinon, on se passerait notre temps à se battre, à se disputer le vendredi. Il faut éviter. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat shalom. Shabbat shalom. 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 Le mot shalom est créateur. Donc, on va l'utiliser. On ne va pas faire un cours sur les planètes. On a déjà fait plein de cours. Vous avez 5000 cours qui vous attendent sur Torah Traïm pour ceux qui sont intéressés. Ou comme mon épouse a fait, que Dieu la bénisse, dans YouTube, elle a fait Play Still. Still Play. Je sais pas comment tu dis? Playlist. J'y connais rien, moi. Et là-bas, elle a tout répertorié pour ceux qui sont intéressés. Tchik-tchak, ils peuvent y aller. Ou l'application Rav Tuitou. Et vous aurez tout ça bien rangé pour regarder si vous en avez envie. Vélachen, ces systèmes-là existent bien et sont là pour influencer sur l'homme. Il y en a qui disent que... Je sais pas. Il y en a qui disent que la création du monde, elle, quand même, elle demande réflexion. Donc, elle demande réflexion. Sincèrement, entre nous. Tu sors dehors. OK? Tu vas dans n'importe quel pays de ton choix, soit le Japon, la Chine, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, et tu dis que la Terre, c'est-à-dire les Juifs vont fêter, non pas l'année du rat et du cochon, les Juifs vont fêter l'an de grâce, et là écoutez bien, pas 4 milliards et demi d'années, hein, l'an de grâce, la création de l'homme ou du monde, comme vous voulez, 5782. Si dit, j'ose pas le dire. On est, selon nous, les Juifs, les fameux extraterrestres, en 5000 quoi? 5 milliards, tu veux dire? Non. 5000 ans. 782 années. Si tu dis ça dehors, tu te fais arrêter par la police, hein. Ils sont fous, ces Juifs. C'est-à-dire que quand on parle des recherches faites grâce au carbone 14, 15, 16, monopole et autres, on te parle de 4 milliards et demi d'années. Quand on parle des brontosaures, des dinosaures, ce sont des animaux qui ont vécu il y a 50 millions d'années. Donc on est quand même face à un système très difficile, surtout quand tu vas au musée de la découverte, ben on te montre l'homme des Tro-Mignon, hein, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, l'homme singe, hein, franchement. Et toi, tu viens avec ta petite Torah et tu dis « Shana Tovas, nous sommes quoi ?» En 5782. Arrêtez-le, on en tient. Non, mais franchement, faut être fou pour dire une chose pareille. Eh bien, mec, c'est compliqué. Surtout, imaginez maintenant qu'à l'école, on enseigne, sincèrement, ce qui est marqué dans la Bible. Comment est venu le premier homme? Alors, c'était deux nudistes dans un jardin. Oui. Et il y avait un serpent. Eh ben, dis donc, t'as vu Walt Disney, toi. Non, sincèrement. Le monde a été créé par un système qui est très bizarre. Un homme, une femme, donc on aurait tous un même papa et une même maman. On est tous frères. Enfin, à des degrés différents. L'arbre généalogique nous ramène à Adam et Ève. Mais c'est quand même débile de penser une chose pareille, quelque part. Au niveau de l'esprit humain, quand on voit ce qu'il y a, il y a une évolution. Il y aurait une évolution. Non, il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi commencer. La première des règles, à propos de l'évolution, c'est que les scientifiques ont un problème avec ça. C'est que si l'homme était singe avant, pourquoi il n'est pas mutant aujourd'hui? Si tu parles d'évolution, pourquoi l'a arrêté? Parce que depuis qu'on connaît l'homme, il n'a pas eu 3 bras ou 4 jambes. Toujours le même. Et quand il en a un, on le mène à l'hôpital. Moi, je ne sais pas, Mikan, que Bémet, il y a un problème dans l'évolution, parce que cette thèse est fausse. Il n'y a jamais eu d'évolution. Jamais. Il y a eu des évolutions de changement. Et ces changements ont créé des évolutions que l'on connaît aujourd'hui. En d'autres termes, Abraham Avinu, c'est le même personnage que nous. Et quand on parle d'Adam Arishon, si vous le voyez, il était juste beaucoup plus grand que nous et différent de nous. Par exemple, en Grèce, je donne un petit exemple, pas compliqué. Les gens disent, ouais, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres, c'est une métaphore, comme le dit le Rambam dans Moré Nebuchim. Il me colle à Kavod, Rashi n'est pas d'accord, et moi je suis plutôt du côté de Rashi sur le coup, parce que en Grèce, quand vous y allez, vous avez des statues, c'est marqué par les historiens, grandeur nature, 6 mètres. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et d'ailleurs, les Grecs, dans leur mytho plus loin, logis, on en fait des dieux, ce qu'on appelle Apollon, Zeus, parce qu'ils étaient extrêmement hauts de taille. Prenons un autre exemple de nos Chachamim. Il y a juste 2000 ans en arrière, vivait un homme de nom de Bar Korva. Et cet homme-là, effectivement, il y a eu une évolution. Parce que on vivait, par exemple, dans la Torah, je vous ai été mort de rire, Mathusalem, 969 ans. Noé, 950 ans. Nous, quand on fait l'anniversaire d'une personne qui a 120 ans, lui dit bonne journée. C'est-à-dire, voilà quoi. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle une faiblesse au niveau de la dévolution et non pas l'évolution. Alors c'est vrai qu'on a évolué dans le modernisme. Les avions, les trains, on est dans un monde moderne. Les portables, aujourd'hui, l'appareil photo, ça se vend plus. Tout le monde a ça. C'est un truc de fou ce qui se passe. Aval, faut remettre les choses dans leur contexte et accepter l'idée qu'il y a d'autres explications qui existent à part les âneries qu'on nous enseigne. Et les choses que nous avons, par exemple, je parlais de Bar Korva, on voit un petit truc. Vous connaissez les catapultes?
Oui.
Les pierres qu'ils lançaient pesaient dans les 100 kilos. OK? 100 kilos catapultés. Et là, nos sages nous disent, devant des milliers de témoins oculaires, dont un très connu, Adrien, empereur de Rome, qui a dit « Nous n'avons aucune chance de le tuer ». Bar Korva shootait sur les rochers jetés sur Bétard et les renvoyait sur les Romains. Il shootait sur 100 kilos de pierres qui débarquaient sur lui ou sur les autres, et c'était le premier messie de l'histoire. C'est un jeu de mots, hein. Non mais attends. Le mec, il est en train de shooter, pas un ballon, une pierre ronde de 100 kilos qui arrive à je sais pas quelle vitesse, 70 km/h on va dire, 50 km/h, mais tu sais ce que c'est de shooter là-dedans? Moi, une fois, j'ai shooté dans un ballon et je ne savais pas qu'il était dans un trou. J'ai shooté dans le petit trou, j'ai boité pendant 2 semaines. Ça fait très mal quand tes os vont en arrière. Pour faire partie de l'armée de Bar Korva, il fallait s'arracher le pouce avec la bouche. Tu t'arraches le pouce, tu t'as déjà essayé, toi, de te mordre la chair, tu peux, mais casser l'os, eh ben, l'Agmara nous dit, ouais. Donc, c'est vrai que ça fait un peu extraterrestre. Il y a eu des évolutions. Les hommes vivaient extrêmement longtemps. Ils étaient beaucoup plus forts. Le rabbi l'a dit. Iridot adorot, on est beaucoup plus faible. On est beaucoup plus faible. Les femmes avant, elles travaillaient plus qu'aujourd'hui contre toute attente. Elles n'avaient pas de machine à laver. Elles avaient des gosses non-stop. Un mari qui était, qu'on est pour un roi. Faut un arc-noyant. Dès qu'on a mal à la tête, un peu plus. Avant, les gens, ils travaillaient. Ils n'avaient pas de sécurité sociale. Il n'y avait rien. Un truc de fou. On était beaucoup plus fort. Alors, comment se fait-il que Bémet, on soit, nous, en 5000, donc 782, et que les scientifiques, alors que la Gemara nous dit que si les scientifiques te parlent, tu peux y croire? Bizarre, quand même, tu vois. Eh bien, c'est l'explication qu'on a déjà donnée. J'aimerais les partager aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de la création du monde. Et en réalité, il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune marloquette et que la Torah a raison, parce que la Torah aura toujours raison, mais que les scientifiques aussi ont raison, contre toute attente. Alors, comment on peut jumeler les deux alors qu'ils sont opposés? Eh bien, la réponse est simple. Quand on ouvre la Torah, dans Bereshit, on constatera un fait incroyable. Quand Dieu a créé le monde le troisième jour, ouais, il a créé la nature adulte. D'ailleurs, la fameuse question stupide, qui a créé l'œuf a créé la poule ou est-ce que la poule a créé l'œuf? Réponse, ça dépend de quel temps tu parles. Si tu parles de la création du monde, c'est la poule qui a créé l'œuf. Et si tu parles de Noé, donc deuxième création du monde au deuxième degré, eh bien c'est la poule qui a créé l'œuf. Parce que les Chachamim nous disent que quand Dieu a créé les animaux, il les a créés adultes. Et donc, Adam a été créé, par exemple, le Zohar nous dit, à 20 ans. Elle a été créée homme. Et la femme, homme. Ça veut dire femme. Aujourd'hui, c'est un lapsus révélateur. Mais de façon générale, ils ont été donc créés adultes. Quand Dieu a créé la poule, il n'a pas créé l'œuf. Il a créé la poule, qui, elle, a engendré les œufs. Mais quand Noé est rentré dans l'arche, il n'a pas pu les prendre, les animaux adultes, car il n'avait pas de place. Donc, il a pris que des œufs qui ont développé leur existence à l'intérieur de l'arche et qui sont nés dans l'arche. Donc, tu vois, c'est une question stupide que posent les gens. Qui a créé quoi? Viens poser la question à la Torah. Elle te répond clairement, elle te le prouve dans les textes, que Bémet, au début de la création du monde, la poule a créé les œufs, et à l'époque de Noir, deuxième création du monde après le déluge, où tout le monde était tôt vavo, eh bien, les œufs ont créé la poule. Comme ça, vous aurez des réponses à donner. D'où vient le vent? Sachez que le Zohar répond du nord, d'une étoile qui vient du nord, et ainsi de suite. Toutes les questions, moi, que j'entends des blagues qui restent vides, il suffit simplement d'étudier un peu la Torah pour avoir des réponses claires et précises et de plus très développées dans le domaine du Zohar. Et la Chéen, quand on regarde la Torah, on constatera que le monde a été créé adulte. Les arbres, troisième jour de la création du monde, ont été créés adultes. Et le compte à rebours du temps des 5782 ans, c'est le jour anniversaire de l'homme et non pas de la terre. Le 25, aujourd'hui même, nous sommes le 25 du mois de Elul, création de la terre. Et vous avez remarqué qu'il n'y a aucune fête aujourd'hui? Parce que nous sommes dans l'espace-temps. Le temps n'existait pas encore à cette époque. Puisque si le temps est dépendant de deux astres, qu'on appelle le soleil et la lune, qui ont été créés le quatrième jour, donc après la création du monde, donc après la nature qui s'est éveillée, bah pour le temps, il faut bien 24 heures, qui sont dépendants de quoi? Du soleil et la lune, quatrième jour, le soleil et la lune ont été créés. Donc, quand est-ce qu'a été créé le monde, selon le Zohar? Aucune réponse. Tu peux dire 4 milliards, 10 milliards, ils n'en ont rien à faire. Pourquoi on n'en a rien à faire? Parce que le compte à rebours du temps, bichlal, selon nos chachamim, démarre à partir du fait que l'homme a été renvoyé de la terre, puisque c'est marqué pour 6000 ans de réparation. Où est-ce que c'est marqué pour 6000 ans de réparation? Dans le mot Bereshit. Quand vous écrivez le mot Bereshit, Barei Elokim et Hashem et Haaretz, dans le premier verset de la Torah, vous avez tout le compte du temps. Par exemple, une semaine est composée de combien de jours? 7. Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashemim, Et, Haaretz. Vous avez combien? 7. Bon. Combien il nous faut de jours en moyenne pour faire un mois? Ça dépend des périodes. Koach. Non. Selon la Torah, c'est Koach. La force du mois, c'est 28. D'accord? Vous avez exactement 28 lettres dans le premier verset de la Torah. Combien de tikkunim nous avons d'années pour nous réparer? 6000 ans. D'accord? On a 6000 ans. Si vous regardez bien dans le premier verset de la Torah, vous avez deux fois le mot. Comment tu dis en hébreu 6000 ans? On n'a pas le temps. Shechet alafim. Shechet alafim. Comment je dis il y a 6 aleph en hébreu? Shechet alafim. C'est exactement la même chose. C'est fou, hein? Bereshit, bara, elokim, et, hashamaim, ve, et, haaretz. Dans le premier verset de la Torah, dans le niveau du temps, vous avez 6 aleph. Pour vous dire que le temps nous a été donné depuis le début pour un démarrage d'un compte à rebours de 7 jours pour les semaines dans la Torah, 28 jours gematria koar pour les jours, même s'il y a plus ou moins, et 6000 ans d'histoire. Donc si je pars de 6000 ans d'histoire, le temps il existe pour ces 6000 ans. Quand est-ce que démarre le compte à rebours du temps des 6000 ans? À la création de l'homme, quand il est viré le jour même, puisqu'il a été viré le jour même où il est rentré. Okay? Oh, il a fait méode. Alors, très bien, je vais te répondre comme on est un peu pressé par le temps. Il dit, oui, mais il y a bien un premier jour. Le 90e Tehilim n'est pas d'accord avec toi, puisqu'il dit qu'un jour chez Dieu, ce serait comme 1000 ans pour nous. Regarde bien ce qui a marqué. Donc déjà, quand on parle de jour, selon qui tu parles? Selon Dieu ou l'homme? Parce que quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas l'homme. Donc de quel jour on parle? Donc ça devient compliqué. Ça veut dire que dans le Tehilim, les jours dont on parle dans la Torah, c'est 6000 ans. Puisque c'est un jour pour Dieu et non pas un jour pour nous. Mais le compte à rebours du temps est démarquant à partir d'ici. Ce qui fait que quand on calcule la Terre, on calcule la création de Kaf et Be'eloul aujourd'hui et non pas la création de l'homme. Et étant donné que le temps démarre à partir de la création de l'homme, donc 5782 ans, quand tu me parles de la Terre qui est à 4 milliards et demi d'années, tu peux lui en rajouter autant que tu veux, ça ne dérange pas la Torah. Le Ramban n'est pas d'accord avec cette explication. Ça veut dire quoi? Il complète cette explication en revenant sur ta question. Et lui, il dit, quelque chose de marrant, mais il dit que, effectivement, L'alliage des molécules, vous savez que le monde a été créé par l'alliage des molécules. D'ailleurs, comme l'avait dit un très très grand scientifique, très bonne question, un anglais, en 1986, avait déclaré que, j'avais lu ça sur VSD à l'époque, les trucs science et machin là, il avait dit, si j'arrive à prouver d'où vient la première cellule du monde, je dirai qui est Dieu. Et il va chercher le mec. Comment on dit le mot cellule en hébreu? Ta, taf, aleph. Effectivement, donc tout est parti d'une cellule, de laquelle la coagulation des cellules crée la matière. Et effectivement, c'est marqué dans la Torah. Où est la première cellule? Si elle avait étudié la Torah, elle aurait trouvé. Bereshit bar Elohim et. La première création de Dieu, c'est la première cellule. Et, qui veut dire avec. Donc coagulation. Et, c'est les lettres du mot ta, qui veut dire première cellule de la création. Et la chen, selon le Ramban, vous savez que les molécules ont une accélération du vieillissage par rapport à deux systèmes, ou l'eau ou le feu. J'ai ma fria. Donc, l'eau ou le feu. Et si on s'en réfère, dit le Ramban, à ce qui s'est passé, selon Rashi, il y a 1000 ans en arrière, dans la création du monde et la catastrophe du déluge, on constatera que la terre est restée sous les eaux, bouillante, puisqu'elle vient du magma, c'est marqué « mitéom rabba », et elle vient du Geinam. Regardez Rashi sur place. Ça veut dire qu'on estimait que l'eau qui a envahi le sol, la terre, pendant une année, était bouillante. J'ai une fois trouvé un midrash qui disait qu'elle était à 7000 degrés. Donc, si l'eau, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'pi halakha, on ne peut pas laisser de la viande qu'on cachérise plus d'une heure dans l'eau. Pourquoi? Elle cuit. L'eau cuit les molécules. Quand tu vas dans la piscine, un quart d'heure, tu ressors, comment sont tes mains? Vieillis, fripés. Pourquoi? Parce que tes molécules sont en train de vieillir. Quand tu restes trop longtemps au soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu verras qu'une femme qui reste trop longtemps exposée au soleil, ne regarde pas, mais je te dis juste un exemple, tu regarderas et me dis « Ah ouais, je peux ?» Non. Qui reste trop longtemps au soleil, à l'âge de 40 ans, elle a un torse d'une femme de 60 ans. Pourquoi? Parce que ces molécules vont vieillir, ça crée des rides. D'où la protection des rayons gamma. « Ve'lachen be'ezrat Hashem » dans ce système-là, le Ramban dit tout simplement, il y a 1000 ans en arrière, dans la ville de Cordoue, parce qu'il est né en Espagne, eh bien, il nous dit qu'à l'époque du déluge, bien avant les scientifiques, qui pensaient il y a 500 ans en arrière que la Terre était plate, tenue par 5 éléphants, les fameux scientifiques, eh bien, je rappelle ce que dit le Ramban, qui rappelle et qui dit que la Terre a vieilli de milliards d'années, tout simplement, à l'époque du déluge. Le Quetzado, il dit tout simplement parce que la Terre est restée sous les eaux bouillantes pendant une année. Ce qui va créer ce qu'on appelle le vieillissement absolu des molécules. Et donc, quand on utilise le carbone 14 pour définir combien d'années à la Terre, même si on part du principe, dit le Ramban, que la Terre a été créée en 6 jours, mama 6 jours tel qu'on le connaîtrait, selon cette théorie de Endavariosemi de Pshuto, eh bien, on arriverait exactement à ce que eux définissent. À quoi ça ressemble? C'est comme si j'étais un artiste et que, avant de venir vous présenter mon chef-d'œuvre, je m'installerai dans la cuisine en train de vous fabriquer une statue d'un vieillard tout ridé avec sa canne bossue qui viendrait comme ça sur une pierre. Et je vous poserai une question, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Un vieux. Et je vous pose quel âge il a d'après vous? Vous allez me dire 90 ans. Et là, je vous répondrai absolument pas, il a juste une heure. C'est-à-dire que c'est vrai que ce que vous voyez paraît être très vieux, mais la création dont on parle n'a qu'une heure, c'est-à-dire 5782 ans. Hein? Alors, il y a une thèse de Elimoun qui dit qu'en réalité, il y a une préhistoire. C'est-à-dire que la préhistoire démarrait à l'époque de Adam Arishon quand il est renvoyé. Puisque là-bas, regardez bien ce que nous disent les Chachamim. Et regardez Rashi. Regardez les commentateurs. Le Midrash Tanchuma, le Midrash Agadol, la Varnifla. Quel était le jouet des enfants avant le déluge? Avec quoi ils jouaient? Avec des démons, c'est marqué noir sur blanc. Avec des animaux extrêmement violents. C'est-à-dire qu'il y a réellement une préhistoire. Et il y a eu une extermination que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre, d'un tremblement de terre, la séparation des continents. Il s'est passé quelque chose où la Terre a été détruite. C'est le déluge. Ce qui fait que quand on parle de la préhistoire, c'est ce qui précède le déluge. Et le démarrage de l'histoire, c'est l'après-déluge. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'il y a eu réellement une préhistoire avant la création de l'homme sur Terre. Manien, chez Neymar, Vares Aïta Tovavo. C'est une réflexion. Si tu me dis que Dieu, il a créé le ciel et la Terre, il a créé un chef-d'œuvre. Alors pourquoi tu me dis qu'elle était Tovavou? Parce qu'entre ce moment-là, il y a une obscurité. C'est quoi cette obscurité? Selon certains commentateurs, il s'agirait d'un échec de la création de l'homme par son libre arbitre que Dieu va effacer avec ces mondes-là, car ils étaient trop puissants pour repartir sur une nouvelle histoire, d'où le fameux Aleph qui précède le Bet. Qu'est-ce que le Aleph qu'on ne voit pas dans la Torah? Ce serait un monde antérieur que Dieu a effacé. Ah, il y a plein d'explications, je pourrais durer des heures. Regarde le Tikkun HaZohar, où Rabbi Yaakov Hatzair dans Mahsof HaLavan, il ramène 70 explications pourquoi le Bet. Et donc, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est le fameux singe. Parce que quand même, je m'excuse, mais quand tu vas au musée de la découverte et qu'on te montre ta famille, ben, tu vois vraiment une évolution d'un homme singe. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans le Talmud de Maseret Brachot Nun E, ou le Talmud de Sanhedrin Kuftet, là-bas, donc il y a juste, qu'on se remette un petit peu à l'ordre, Darwin a vécu il y a à peu près 3 siècles. Hein. Sa thèse a été toujours enseignée dans les universités. Il y a juste 2000 ans en arrière, soit exactement 1800 ans en arrière, le Talmud, donc bien avant Darwin, nous parle de l'homme singe. Et elle nous parle de cet homme singe, non pas de singe qui est devenu un homme, mais d'un homme qui est devenu un singe. D'où est-ce qu'on voit ça? Dans la tour de Babel. Puisqu'à l'époque de la tour de Babel, la Gemara, deuxième grande ligne, page 109 de Amud Aleph de Maseret Sanhedrin, nous dit que Dieu a transformé les hommes en singes. Donc quand on trouve des hommes singes, oui, la Torah t'en parle, non pas d'une évolution de l'homme de Néandertal devenu l'homme humain, mais mamash, des hommes qui sont devenus des singes. Et bizarrement, vous avez remarqué qu'on en parle de moins en moins dans les universités. Maintenant, ils sont passés à Bob l'éponge. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement ils sont dans le délire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la thèse de Darwin soit tombée à l'eau? Eh bien, malheureusement pour eux, ils ont retrouvé des ossements humains, selon le carbone 14, datant de l'âme de Néandertal. Et là, ils disaient, temps mort, il y a un problème. Effectivement, c'est ce que dit le Talmud. Les gens qui avaient construit la tour de Babel pour se moquer, Dieu les a changés en singes. Mais les autres sont restés humains. Ce qui fait que quand tu retrouves des ossements qui ont traversé l'histoire de façon assez exceptionnelle et qu'avec ce même système du carbone 14, tu déchiffres qu'ils auraient 50 millions d'années, et tu dis, un problème, c'est que cet ossement humain aussi, donc il y avait des humains à l'époque des singes, eh bien, il suffisait d'aller au Talmud Torah pour le savoir sans vous fatiguer pendant toutes ces années et à perdre de l'argent pour rien. Donc oui, il peut y avoir ce genre de choses. Encore aujourd'hui, on trouve dans certaines régions du monde des hommes qui ressemblent à des singes ou des hommes qui se comportent comme des singes. D'où est-ce qu'on avance ça? De l'évolution. C'est-à-dire que quand tu finis, comme le Talmud le dit dans Maseret Shabbat 31, pose la question à Hillel. Comment se fait-il que les gens qui vivent dans tel continent ont des pieds larges? Oui, des pieds larges. Eh bien, comme ils vivent dans les marais, leur pied s'est adapté. C'est-à-dire que le corps humain, ainsi que la mentalité humaine, peut s'adapter à des situations inappropriées à l'homme. Par exemple, quand vous allez dans l'Amazon, rien que les moustiques, ils t'empalent là-bas. OK? Il y a un mec, il a essayé de manger ce que mangeaient les indigènes, il a fait 3 mois de coma. Mais eux, ils le mangent très bien. Quand tu vois ce que mangent les Chinois, la vérité, t'as pas envie de t'appeler Bruce Lee. Hein. Sincèrement, comment tu peux manger ça? Et tu le manges, tu crèves. Mais eux, ils crèvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans l'humain de s'adapter à toutes les régions. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que quand l'homme a été créé, Dieu a pris de toutes les terres pour que là où on aille, là où on va, même si c'est en Sibérie, même si c'est à l'extrême de tous les pays du monde, eh bien, on peut vivre, même sur une île. On peut vivre parce qu'on vient de toutes ces particularités. Le monde a été créé aussi selon un système de mathématiques que tout le monde connaît, puisque vous savez que la menorah, dans le candélabre que nous avons au Beth Amikdash, représente la science, c'est celle du centre de la Torah. La Torah n'est pas une science, Ras Vesham, comme voulaient prétendre les Grecs. Mais celle qui est au centre représente la Torah. C'est pour ça que toutes les lumières dans le Beth Amikdash regardaient dans la direction de celle du centre. Parce qu'en réalité, la Torah engendrait les mathématiques, les conjugaisons, la musique, la géographie, tout ça vient de la Torah elle-même. Alors je vous ai fait juste un petit cadeau comme ça, que nous enseigne les Mekoubalim, comment le monde a été créé. Si on s'en réfère à la première Mishnah du 5e chapitre de Maseret Avot, le monde a été créé par un membre. Lequel? La bouche. C'est bien. Sheneemar ba'asara ma'amarim nivra olam. Par la bouche, ma'amarim, par la parole, le monde a été créé. Comment on dit la bouche en hébreu? Ma bouche. Comment on dit ma bouche? Non, pas une bouche. Comment on dit ma bouche? On n'a pas le temps. Pi. Vous êtes des Olim Khadashim, c'est ça, depuis 20 ans? C'est ça. Top. Eh bien, effectivement, le monde a été créé par la parole. Et la parole, elle sort d'où? Eh non, Aaron, pas des oreilles. Elle sort de la bouche. Hazar Kobaruch. Le Zohar nous apprend comment le monde a été créé. Et voilà ce que nous dit le Tikkun HaZohar. Quand Dieu a voulu créer le monde, les 22 lettres de la famille tournèrent autour d'une trône divin. Et chacune d'entre elles se présenta devant Hachem, prétendant qu'elle pouvait être digne d'être la première lettre de toute la Torah. Et tout ont été virés, sauf la lettre bête. La lettre Aleph n'a pas osé se présenter en disant bah, « Si le taf n'a pas été accepté, qui est 400 en guématria, qui suis-je moi qui ne vaut qu'un ?» Dieu lui a dit « Ne t'inquiète pas, je commencerai le pourquoi de la création du peuple d'Israël, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, par la lettre Aleph. » Et on se donnera rendez-vous tous les Aleph Betishré, Aleph Betishré, Otiot Bereshit. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que dit le Tikkun HaZohar ? Dieu a pris donc les 22 lettres de l'alphabet et pour créer les 7 jours, a dû donc diviser 22 divisé par 7. Et on obtient le chiffre de l'infini qui va permettre la création du monde. Étant donné que l'univers est une sphère, que les planètes sont une sphère, que nous vivons dans une stratosphère, qu'est-ce qui peut, comment s'appelle la mesure mathématique pour mesurer les sphères ? Les circonférences. Pi 3,14. Si vous prenez les 22 lettres de l'alphabet, divisé par 7, ça fait 3,14. Comme on dit ça en hébreu, pi, en français, pi. En d'autres termes, c'est par cette mesure-là qu'on prend les circonférences. Et c'est par cette mesure-là que le Créateur du monde a créé la première formule mathématique de la création du monde, pi 3,14. Il y a tellement de choses à dire, mais étant donné que nos avrichim nous regardent en disant « il est l'heure de nous casser », pour les laisser étudier, je voulais juste avec ce petit jour anniversaire de la création du monde et vous dis de tout cœur que faites confiance en la Torah, je vous affirme qu'il y a des réponses à toutes les questions. Il suffit simplement d'ouvrir des bons livres et d'y trouver les réponses car la Torah ne se trompe pas et le monde scientifique ne fait que courir derrière la vérité de la Torah avec un autre chemin, plus ambigu, mais qui demande aussi du respect, comme vous l'avez bien compris. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov.